Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils le battirent, les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les filles de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent et ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les filles de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kiriath Arba, et il bâtit Shechmeshaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Cadé de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent dans la ville des palmiers avec les filles de Juda dans le désert de Juda, au Midi d'Arad. Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, d'Écron, et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda. Et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna à Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shéan et des villes de son ressort, de Taanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kiltron. Et ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, d'Elba, d'Afik et de Réob. Et les Azérites, habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh ni les habitants de Beth-Anat. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à une tribu. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à une tribu. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et au-dessus. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» J'ai dit alors « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaz. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une génération ou une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre, ce qu'ils ne l'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent d'autres dieux. Amen. Allez, on a fini de lire. Maintenant, c'est moi qui parle. Mais je continue. On a souvent considéré que l'histoire des juges était dans son déroulement comme l'anticipation de celle de l'Église. On y trouve des périodes on ne peut plus ténébreuses sur le plan spirituel, puis semblables à des éclaircies, vous voyez, au sein d'orages, quand il y a l'orage, après il y a une éclaircie, il y a l'arc-en-ciel, etc. Eh bien, il y a eu des moments de réveil où l'Esprit de Dieu va susciter un homme fidèle pour justement donner de l'impulsion au peuple de Dieu, les amener à prendre conscience de leurs manquements afin qu'ils se ressaisissent. Et pour un temps, eh bien, il y avait une phase de prospérité, une phase de paix et une phase de prospérité parce que les deux choses allaient ensemble. Du chapitre 1 au chapitre 3, bien sûr, au verset 6, le livre nous est comme présenté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut surtout nous montrer certains principes et que j'appelais les principes du déclin. Vous savez, les principes de la descente. On a lu certaines choses et on va les voir en détail. Alors, on a entendu tout à l'heure que ce n'était pas suffisant de chanter ou de proclamer. Il faut qu'il y ait de l'action. Et c'est vrai qu'au départ, il y a eu des belles promesses. Et si je regarde un petit peu dans Josué, qui est juste avant, le livre de Josué, chapitre 24, versets 14 à 28, ne le cherchez pas, vous le regarderez chez vous. Josué met le peuple devant un choix. Ils avaient donc un choix à faire. Lui va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'était clair. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Puis, eh bien, lui rajoute ceci, moi et ma maison, eh bien, nous servirons l'Éternel. Et là, emportés tous ces membres par l'enthousiasme, eh bien, tous vont répondre, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Formidable. Vous vous dites, waouh, on va aller loin, là. Hein? Eh oui. Alors, promesse solennelle, qui va être affirmée une seconde fois, nous servirons l'Éternel et nous obéirons à sa voix. Et voilà que, finalement, en signe de témoignage, une pierre est dressée. Hein, c'est pour montrer qu'il y a eu un engagement volontaire. Voilà. Le peuple a dit, nous servirons l'Éternel et nous obéirons à sa voix. Malheureusement, quelques années après, et là nous sommes au livre des Juges que nous venons de lire, un envoyé de Dieu devra monter vers ces mêmes gens pour leur dire ceci. Vous n'avez point obéi à ma voix. Porte-parole de l'Éternel. Vous n'avez point obéi à ma voix. Voilà que le Seigneur se pose quelque part sur la plaie, hein, sur l'endroit qui est béant, qui est ouvert, qui fait mal. Vous n'avez point obéi à ma voix. Pourtant, il y avait l'engagement, vous vous souvenez? Nous servirons l'Éternel. Amen. Alors, comme dit la parole de Dieu, si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Croyez pas? Eh oui. Alors, il ne suffit donc pas de faire à Dieu de belles promesses, d'avoir de bonnes intentions, si elles ne sont pas suivies d'action. Elles restent stériles. Et est-ce que eh bien, cette situation-là peut satisfaire le Seigneur? Bien sûr que non. Tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que tu me suivrais, tu me servirais. Tu m'as dit que tu servirais de témoignage. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Vous voyez, pour satisfaire le Seigneur, il faut qu'il y ait des actes qui suivent nos paroles. Ne soyons pas des figuiers n'ayant que des feuilles, nos belles promesses, mais ayons des fruits, c'est-à-dire nos actions, nos actes qui suivent nos paroles, notre engagement. Nous savons que Dieu veut être aimé. Amen. En acte, pas seulement en parole. Il veut être servi, non en idée, en pensée ou en théorie, mais d'une manière pratique. Amen. Et j'aimerais dire ceci, nous ne nous séduisons pas nous-mêmes et ne trompons pas nos cœurs parce qu'on appelle des faux raisonnements. On en a eu un chant qui en parlait, nos faux raisonnements. Dieu veut connaître aujourd'hui ce que nous avons fait et pas ce que nous avions l'intention de faire. Amen. Parce que c'est important. Qu'en est-il de nos engagements suite au baptême? Seigneur, je te suivrai. partout où tu voudras, j'irai. Ben, ça sonne bien, hein? Je m'engage, Seigneur, de tout mon cœur. Où ça en est aujourd'hui? De nos promesses de fidélité, promesses d'obéissance, de consécration. Je rappelle que Dieu ne se satisfera pas seulement s'il n'y a pas la mise en pratique. Il faut qu'il y ait mise en pratique. Alors, les principes du déclin, je vais en parler maintenant. D'abord, le déclin, ce n'est pas la chute. Mais c'est le chemin et le processus qui vont conduire justement vers la chute. Il y a rarement des chutes brutales, spontanées. Non, ça, c'est rare, mais c'est comme ça. Elle est généralement précédée pendant plus ou moins longtemps par une démarche, je dirais, progressive. Et je dirais que, au cours de cette marche progressive de descente, bien sûr, eh bien, Dieu parle, je le crois. Dieu nous tend la main. Dieu nous avertit. Dieu permet des circonstances. Et s'il n'y a pas de, je dirais, de ressaisissement de la part de l'intéressé, eh bien, cela va le conduire tout simplement vers une ruine certaine, une ruine spirituelle en tout cas. C'est pourquoi il nous faut veiller sans cesse et tenir ferme quant à tous les principes que la parole de Dieu nous enseigne. Ce sont des principes, c'est un code de vie la parole de Dieu. Eh oui, céder par exemple sur un point, même secondaire en apparence, eh bien ne peut que nous conduire très loin avec de graves conséquences. C'est important d'être sérieux là-dessus. Et suivons maintenant les expériences du peuple d'Israël, parce qu'on se base sur la parole de Dieu. On va examiner les phases du déclin qui commence. Et puis, l'important, ce n'est pas de rester sur un constat, mais c'est quelque part d'en tirer des leçons pour nous-mêmes. Amen. Et ces choses nous sont arrivées afin qu'elles nous servent d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, bien sûr. Alors, premièrement, c'est un manque de foi. Ici, une précision nous est donnée au sujet de la tribu de Judas. Il est dit au verset 19 du chapitre du juge premier, « Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. » Donc il y a là une demi-victoire. D'accord ? On peut dire qu'il y a une victoire parce qu'ils ont chassé jusqu'à un certain point. Donc il y a une victoire partielle, pas totale. Pourtant, il nous est bien dit, en tête du même verset, que l'Éternel fut avec Judas. Donc, si l'Éternel était avec eux, ils auraient pu pulvériser la résistance de ces fameux impressionnants chars de fer. Eh oui, c'était que des choses méprisables devant celui qui s'avance au sein d'une armée de chars et de chevaux de feu. Amen. C'est ça l'armée de l'Éternel. Ça, l'armée du ciel. Amen. Est-ce qu'un homme peut résister? Non. Alors oui, je pense qu'il y a eu un manque de foi. De plus, la dite tribu de Judas entreprit son combat après avoir consulté Dieu et surtout sur son ordre. Dieu avait même précisé que la victoire était déjà acquise. J'ai livré le pays entre ses mains. Alors que s'est-il passé? Eh bien, il semble bien que la promesse, cette promesse divine, n'a pas suffi à Judas. Il fallait autre chose. Et il pensa que son frère Siméon serait un bon aide, un bon secours. Voilà. Problème, il va lui dire, monte avec moi et nous combattrons. Après, j'irai t'aider. Est-ce que le Seigneur, là, a été consulté? Ce n'est pas dit. Le Seigneur lui a dit, je te donne le pays, il est à toi. La victoire est acquise. Mais quand il dit, allez, Siméon, tu montes avec moi, il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que Siméon doit monter avec moi? Non, non, non. Siméon, tu montes avec moi. Oui, je monte avec toi, puis après, je t'aiderai de ton côté. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Que quelque part, il y a eu un manque de foi. Ça veut dire également qu'il y a eu de l'incrédulité qui a inspiré ici Judas et ses hommes. Alors, si le bras de Dieu est avec nous, eh bien, nous n'avons pas besoin plus de celui de la chair. Amen. Ce n'est pas que l'aide de nos frères soit méprisée, bien au contraire, mais il ne faut pas que le secours de l'Éternel soit remplacé par le secours des hommes. Vous comprenez? Eh oui. Judas donc s'est mis en marche avec Siméon. Le Seigneur fut avec Judas malgré tout, c'est bien parce que Dieu, juste par, est bon. Et non pas parce que Judas a eu foi en lui. Vous voyez? Puisque... oui. Alors cependant, ce ne fut qu'une demi-victoire. Et problème, c'est qu'on va se contenter de cette demi-victoire ou de cette victoire partielle. C'est suffisant, ça va. Et c'est ce qui se produit quand on compte davantage sur l'homme, sur la société, que sur Dieu. Seul Caleb semble avoir eu une victoire totale. Vous regarderez Josué chapitre 1, verset 20. Il va chasser les trois fils d'Anak. C'est là trois types de nos principaux ennemis. Je les nomme la chair, le monde et le diable. Il faut dire que c'était un homme de foi, Caleb. Amen. Avec Josué, le seul qui sont revenus en disant « Le pays est à nous !» Eh oui ! Alors, il sut mener sa guerre en comptant sur qui ? Sur l'Éternel, sur Dieu seul. Amen. Il avait affirmé à Josué cela et il l'a fait. Quant à nous, nous savons justement que par Christ, tout est accompli. Amen. Vous êtes conscient qu'il y a un tout accompli pour vous, chacun personnellement, individuellement. Tout est accompli pour que nous ayons une victoire totale et pas une demi-victoire. Amen. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus a vaincu tous nos ennemis. Amen. Le diable, le monde, le péché. Donc, tous étaient vaincus. Et Dieu nous dit par son Fils, et grâce à sa victoire, « Je livre tous vos ennemis entre vos mains. » Amen. Personne ne peut te résister parce que le Seigneur est avec toi. Tu réalises ce matin que tu es potentiellement dans la victoire. Je dis bien potentiellement dans la victoire, virtuellement dans la victoire, comme on le dit aujourd'hui. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu avances. Il faut que tu combattes le bon combat de la foi. Alors qu'aucune incrédulité ne nous prive de ces bénédictions. Ce qui serait pour nous, justement, eh bien, l'amorce d'une descente qui va nous précipiter vers le bas. La parole de Dieu affirme, et croyons-le, que ce qui n'est pas vaincu dans nos vies sera pour nous un filet, un piège, un fouet, des épines dans nos yeux, jusqu'à ce que nous ayons péri. C'est ce que dit Josué chapitre 23, verset 13, pour ceux qui prennent des notes. Veillons donc à ce qu'aucune racine, c'est-à-dire ennemi qui ne serait, je dirais, qu'à moitié vaincu, eh bien, poussant des rejetons, ne produise comme cela du trouble dans nos cœurs. Amen. Autre manque, c'est le manque de sanctification. Eh oui. Qu'est-ce que la sanctification? Eh bien, c'est tout d'abord, le fait d'être mis à part par Dieu. Et ce, par la foi en Jésus-Christ. C'est cette foi qui rend tout homme qui la possède saint aux yeux de Dieu. Amen. Ensuite, s'il y a vraiment foi en Christ, eh bien voilà que nous sommes conduits à nous tenir éloignés du péché. Amen. J'ai besoin de travailler là-dessus. Éloigné de toute souillure. 1 Jean chapitre 5, 18 dit que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est notre responsabilité individuelle. Amen. Pour que le collectif en bénéficie, que l'Église en bénéficie. Alors quiconque ne veille pas à progresser, je dirais, dans le domaine de la sanctification, eh bien, va commencer à s'accommoder de compromis. Je dirais, d'un semblant de mise à part. Dommage. Parce que de ce fait, eh bien, c'est le risque de chute. Ça indique finalement une attitude qui est comme un signe de déclin, de descente. On pactise un petit peu avec ceci. On est d'accord avec cela. Et puis, voyez, on commence par y laisser au fur et à mesure, eh bien, jusqu'au coude. Et puis après, c'est l'être tout entier. Alors, c'est ce que nous constatons ici pour le peuple de Dieu. Juges 1:21, les Jébusiens habitèrent avec les fils de Benjamin. Ils habitèrent ensemble. Juges 1:29, les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm. Au lieu de se tenir séparés du monde, mais également ce qui les anime, de ses idoles, voici, le monde est avec eux, au milieu d'eux, pour ne pas dire en eux, c'est-à-dire ayant quelque part trouvé place dans leur cœur. Eh oui, ça ne va plus là, hein ? Ça ne va plus. On marche cœur à cœur avec le monde, en communion avec lui. On adopte ses principes, ses pensées, sa manière de vivre, d'agir. N'est-ce pas là un signe de déchéance ? Mais bien sûr. Peut-être qu'aux yeux des hommes, il n'y a pas de déclin. Tout va bien. On sait dire non. Mais aux yeux de Dieu, il dit, mais tu es déjà en train de descendre. Tu es déjà dans la chute. Alors on peut paraître vivant, comme dit Apocalypse, chapitre 3, verset 1, quoique mort. C'est ce qu'il va dire à une église. Notons aussi que pour beaucoup, le monde a encore sa place. Car quelque chose nous effraie, c'est la volonté de Dieu. On a peur. Si j'y arrive pas. Mais si Dieu est avec toi, tu vas y arriver, mon frère, ma sœur. Amen. Oui, il y aura la victoire, mais il faut que tu le crois. Il est dit aussi que les Cananéens voulurent rester, hein, Juges chapitre 1, verset 27. Alors, si ce que le monde veut imposer a plus de valeur que Dieu, que ce que Dieu veut, eh bien, où allons-nous ? Ne nous laissons pas impressionner par aucune autre volonté que celle du Seigneur, de notre Père céleste, de sa parole, ce qu'elle nous dit. Amen. Autre chose, c'est le manque de maturité. C'est-à-dire qu'ils étaient quelque part restés un petit peu enfants. Ces gens sont restés à l'enfance dans le domaine spirituel. Il leur fallait toujours être entraînés par quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un les conduise. Voilà que livrés à eux-mêmes, eh bien, ils ont vite fait de se détourner de Dieu. Juges 2:7 nous dit que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Mais au verset 19, il est dit qu'à la mort du juge, donc de Josué, il se corrompait de nouveau. C'est terrible. Amen. Croyez pas ? Alors cela nous rappelle un petit peu le roi Joas. Il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel tout le temps que le sacrificateur Jéhojada, fut vivant. Voyez ? Jéhojada le corrigeait, lui rappelait. Il dit, allez, avance. Allez, l'Éternel te réclame. Voyez ? Mais après la mort de Jéhojada, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va se mettre à écouter d'autres voix. Dommage. Il aurait été quelque part mûr intérieurement, prêt, en éveil. Il n'aurait pas écouté ses voix. Hein, il nous faut être mûr et très sérieux. Plus sérieux que d'accepter certaines choses. Non, non. Paul disait aux Philippiens, chapitre 1, verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme. » Amen. Le pasteur est en vacances. Alléluia! Non. Non. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons non pas pour plaire au pasteur, mais pour plaire au Seigneur. Oh, si nous plaisons au Seigneur, nous plairons au pasteur. Hein? Amen. Eh oui. Alors, les manifestations visibles du déclin, elles sont là. La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, il devra aussi le moissonner. Et se permettre, eh bien, quelques libertés avec la volonté de Dieu ne pouvait, je dirais, que conduire le peuple d'Israël dans un état spirituel grave. Avec de graves manquements. Alors, quelques conséquences. Ce peuple qui normalement est un peuple de vainqueurs, les voilà dans la défaite. Faute d'avoir repoussé suffisamment l'ennemi, eh bien celui-ci a pu reconstituer ses forces. Il est dit que les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. Juges chapitre 1, verset 34. Le terrain qui avait été conquis a été repris. Eh oui, pour nous, Ça veut dire qu'il nous faut veiller et demeurer sur des positions acquises, demeurer vainqueur. Pas de compromis. Vous comprenez ? C'est important. Inspirons-nous également de David, de Samuel 5:9, vous le lirez chez vous. S'étant emparé de la forteresse de Sion, il en fit en sorte de ne pas en être délogé. Pour ce faire, eh bien, il va s'établir. Il va s'établir dans une position de victoire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, comme il a été dit dans le chant tout à l'heure, de remporter une victoire. Il faut la conserver. Et il faut veiller à cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, David ? Eh bien, il a fait des constructions de tous côtés afin de consolider la place pour que l'ennemi ne vienne pas, à un moment donné, le chasser de là. Au contraire, faisons aussi, je dirais, de la construction spirituelle dans notre vie. Amen. Travaillons à notre salut pour le consolider. Amen. Là, il faut travailler. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous. Mais ensuite, il faut travailler à être fort. Amen. À ne pas être amené par le bout du nez où on ne veut pas, où Dieu ne veut pas qu'on aille, bien sûr. Fortifions notre foi par la parole de Dieu, par la prière. Amen. C'est important. Et faisons tous nos efforts pour joindre, comme il est dit, à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, etc. etc. Vous regarderez 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Ça, c'est un bon programme de construction. Et si Dieu avait édifié des remparts autour des terrains conquis, eh bien, jamais Dan n'aurait été repoussé. Il aurait conquis tout le terrain, tout ce qu'il y était issu en partage. Deuxième chose qui apparaît, ce sont des pleurs. C'est Juges chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 5, mais je vous le rappellerai simplement. Dans sa bonté, Dieu a envoyé un homme pour parler à son peuple. Ce que je dis, une chute n'est jamais quelque chose qui surgit précipitamment. Non, au contraire, il y a une descente, mais en chemin, Dieu parle. Dieu avertit, Dieu permet des circonstances. Alors, étant donné l'état moral et spirituel dans lequel était Israël, la parole de Dieu n'a pas pu le réconforter. Puisqu'au contraire, elle lui disait, vous avez failli, vous êtes passé à côté, il faut vous ressaisir. Alors, ça n'a pu que le reprendre, l'accuser. Ce n'est pas agréable de se sentir accusé. Ou quand on est repris. Oh, alors, tout le monde pleura. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et ainsi en est-il, pour tout croyant, qui se retrouve finalement en perte de vitesse. La parole de Dieu ne peut plus le réjouir. Chaque fois qu'il l'entend, elle l'accuse. Cela l'attriste, bien sûr. Et ça s'est passé chez les Corinthiens qui vivaient dans le désordre, bien sûr. Et Paul, eh bien, ses paroles leur faisaient mal. Mais c'était la réalité. C'était parce qu'il fallait qu'ils se récupèrent. Alors, quelquefois, on ira même jusqu'à s'aigrir contre la parole de Dieu. Ou même s'aigrir contre celui qui l'apporte. Pour qui il se prend. Moi, il m'est arrivé de me retrouver à la sortie avec des gens qui ont regardé comme ça. Et oui, prêchant la parole de Dieu, dit des choses qui les concernaient sans le savoir. Mais comme ils étaient en porte-à-faux vis-à-vis de l'Écriture, alors ils me regardaient comme ça. Même pas, c'était même pas un regard. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est comme ça. Alors on s'aigrit contre celui qui apporte la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui dit la vérité, qui quelque part, eh bien, sert pour te reprendre. Parce qu'il y a besoin, quelque part. Alors fort heureusement, ce n'est pas le cas ici. Mais nous nous souvenons de l'accusation de l'impie Akab à l'égard d'Élie. Vous savez qu'Akab, lui, vivait dans le désordre. Il avait épousé eh bien, une que Dieu avait interdit. Il s'était mélangé. Qu'est-ce qu'il dit à Élie, un roi 18-17? Il dit, tu jettes le trouble en Israël. Et il n'y avait plus d'eau. C'était la sécheresse. Vous savez, quand sur le plan spirituel, ça ne va pas. Et sur le plan matériel, ça ne va pas non plus. Sur le plan physique, ça peut ne plus aller aussi. Et effectivement, dans le déclin, eh bien, il n'y a que du trouble, des pleurs, des craintes, des larmes. La parole de Dieu peut même devenir insupportable à celui qui a pris des distances avec Dieu. Eh oui, Jésus ne fut-il pas crucifié pour cette raison? Il est dérangé. Eh oui, ça les accusait. Et Jésus, justement, est venu pour les amener à se ressaisir. Alors, il n'y a pas de paix, comme dit la parole de Dieu, pour le méchant. Autre conséquence, c'est qu'on s'éloigne des bases de la foi. C'est la déviation. Juge de 1 nous montre que le peuple n'est plus à Gilgal. Eh oui, dans le livre de Josué, toutes les expéditions victorieuses partaient de Gilgal. Et là, ce n'est plus le cas. Il y a une fois où ce n'est pas parti de Gilgal. C'est pour la conquête d'Aï. Moi, je dis Aï. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la défaite. Eh oui. En ce lieu, également, Gilgal, Josué a circoncis les mâles nés dans le désert. Et la circoncision évoque justement pour nous la repentance, le renoncement, la mort à soi. En un mot, c'est la croix. C'est la croix. Amen. C'est là que tout démarre. Et constatons que le peuple a abandonné ce lieu, mais sur tout ce qu'il représente. On n'a plus vu le besoin de passer par Gilgal. On peut s'en passer. C'est ainsi que le déclin a comme résultat dans la vie de tout enfant de Dieu, de l'amener à une vie ou un christianisme sans Gilgal, si vous préférez, sans la croix. Un jour, on m'a dit, « Pasteur, vous prêchez bien, mais vous parlez trop du péché. » J'ai dit, « C'est votre problème. » Eh oui, parler de la croix. Ah, c'est vieillot. Vous l'entendez pas des fois? Mais qu'est-ce que tu parles de la croix, de la croix, de la croix? Ouais, je la porte. Ben, il ne suffit pas de la porter. Il suffit qu'elle soit plantée dans le cœur. C'est là que l'on ne nous rebute pas, au contraire. Parce qu'on réalise tout ce qui a été accompli à la croix. Amen. La repentance paraît inutile, la sanctification désuète, la mort à soi-même repoussante. Ah, eh oui, ça c'est pas l'esprit du monde, Eh oui. Alors quiconque annonce ces choses peut passer pour un légaliste. Pasteur, vous êtes étroit d'esprit. Ben je préfère être sur la croix, planté dans la croix, que la croix soit plantée en moi, qu'elle soit bien debout, même si je parais qu'être légaliste ou étroit, parce que finalement la porte étroite aujourd'hui elle est bien élargie. Pas grave, entre comme ça, ça ira. Et non. Et non, il y a la toise de Dieu. Vous savez, si on n'est pas à la bonne hauteur, si on n'est pas calibré selon le plan de salut de Dieu, si on ne passe pas par la croix, on n'entre pas. Et oui, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui devait être le sel de la terre, et le sel, il perd sa saveur. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est tentant et vite fait de dévier. Sachons, justement, si nous voulons encore servir Dieu, si ça peut paraître désuet de se sanctifier, de chercher quelque part à plaire à Dieu, faisons-le, parce que sinon on va passer à côté. Amen. Et puis l'apostasie arrive. Josué 2:11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés. Dieu est abandonné. Et voilà que l'idolâtrie ou l'idolâtre s'installe. Rappelons-nous encore que cela a été progressif. C'est pas arrivé soudainement. Non. Autre chose, c'est que la colère de Dieu s'enflamme. Eh oui. Juge 2, 14 à 20, vous le lirez chez vous, vous reprenez la lecture. Voilà que Dieu les livre entre les mains des pillards et des ennemis d'alentour. Attendez, mais c'est un peuple vainqueur. Un peuple avec qui Dieu était. Un peuple à qui Dieu avait dit que tu seras vainqueur, tu vas posséder le terrain, le pays, il est à toi. Eh oui. Alors, c'est une chose terrible que d'être abandonné par Dieu pour être livré à l'ennemi. Je crois qu'il n'existe rien de pire au monde. Nombre 14, 34, Moïse dira ceci, de la part de Dieu, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Être privé de la présence de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir loin de Dieu? Quels sont vos sentiments à ce moment-là? C'est pas brillant, hein? Oh, c'est une impression terrible. On sait que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais là, on ne sait plus. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il est là? J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Alors oui, c'est terrible. Autre point, c'est les tribulations qui sont là, l'opposition qui se manifeste, l'adversité. Juge 3:5, les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. D'une façon symbolique, ces peuples représentent les circonstances dans lesquelles eh bien, devra vivre l'enfant de Dieu qui rétrograde. Eh oui. Cananéen vient de Canaan, qui signifie bas, déprimé. Et l'éloignement de Dieu conduit justement à vivre dans la dépression et le découragement. Étienne, ça vient de être, qui veut dire terreur. Je rappelle qu'Israël vit au milieu de ce peuple, de tous ces peuples-là. Hein. Ça évoque quoi? Hein, terreur. Ça évoque une atmosphère de crainte et de peur permanente. Eh oui. Amoréen a le sens de montagnard. Dans la Bible, les montagnes sont le symbole de la puissance. Des puissances. Amen. On est sur les hauteurs. Et là, il semble que ces montagnes représentent les puissants des ténèbres auxquels se trouvent livrés les apostates, c'est-à-dire ceux qui ont rétrogradé. Phérésiens et Éviens ont la même signification, villageois. Et là, ça fait penser aux tribulations que le monde fait subir aux enfants de Dieu. Il y a deux noms, car le monde peut avoir deux aspects pour conduire le croyant à la chute. Première, c'est la séduction. Le roi de Sodome, eh oui. Ou alors, violence. Séduction, violence. Oh, vous vivez là-dedans? Et vous avez envie de vivre là-dedans? Bien sûr que non. Hein. Quant à Jébusien, cela vient de Jébus, qui signifie fouler aux pieds. Ah. Eh oui, c'est comme ça, fouler aux pieds. Et en effet, finalement, le rétrograde, c'est comme du sel qui a perdu sa saveur. Il ne peut plus qu'être foulé aux pieds par les hommes. On te marche dessus, on t'écrabouille. On te piétine. Est-ce que c'est un sentiment agréable? Rien que d'y penser. On est méprisé, même par le monde, qui ne verra plus qu'en nous quelqu'un de faible. Terrible. Par contre, ces mêmes ennemis sont vaincus par l'enfant de Dieu fidèle, celui qui s'est tenu debout au pied de la croix, celui qui a pris le temps d'examiner la parole de Dieu, de se laisser enseigné, imprégné par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'aimerais finir, ne pas vous laisser sur cette note, mais sur une note plus légère, plus positive. Et pour ça, j'aimerais parler un petit peu de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Quand vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous fermez les volets, vous laissez vos plantes près de l'évier, vous laissez de l'eau, une réserve, etc. Et quand vous revenez, vous voyez que votre plante, elle a pris une forme. Vous n'avez pas remarqué? Cette forme, elle va vers la lumière, parce qu'il y a un petit rayon qui passe là. Eh oui, on a besoin de la lumière. Alors, celle-ci ne peut venir que du Père des Lumières, notre Dieu, notre Père Céleste. Je dirais que malgré ces choses bien négatives dont nous venons de parler, eh bien, ça trouve malgré tout une fortifiante. Elle est là. C'est que, inlassablement, l'amour, la patience du Seigneur ont continué à se manifester. Amen. De Juge 2:16, l'Éternel suscita des juges. Amen. C'est-à-dire des points de repère, des hommes qui étaient là justement pour les interpeller parce que Dieu voulait que la lumière revienne en eux. Il voulait justement les ramener sur le droit chemin. Et ce que je constate, c'est que Dieu demeure fidèle. Et au premier signe de repentance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir son peuple. Amen. Tout au long du livre des juges, qu'est-ce que nous voyons? Hélas, le péché qui abonde, la grâce qui surabonde. Bien sûr, il n'est pas question de péché pour faire surabonder la grâce. Veillons à ne pas fatiguer de Dieu ou se moquer de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Eh oui. Alors, je termine en disant que Dieu veut prouver qu'il se sert des choses faibles pour confondre justement les fortes. Parce que tous les juges, vous regarderez un petit peu, vous analyserez un petit peu leur vie, hein, également d'où ils sortent, eh bien, c'était des êtres vivants n'ayant rien en eux-mêmes pour être des libérateurs. Eh oui. Mais ils vont prouver que si eh bien, la masse ou le plus grand nombre se détournent de Dieu, voilà que la foi et la piété individuelle peuvent justement permettre que tout évolue différemment. Eux vont briller au sein des ténèbres. Amen. D'ailleurs, on en parle. Hein? Pour cela, il faut faire tout pour être des instruments de Dieu, un petit peu comme David. Servons les desseins de Dieu dans notre génération, dans notre temps, aujourd'hui. Si on dit que le Seigneur est sur le retour, un texte nous dit, plus littéral, nous dit qu'il est le venant, c'est-à-dire qu'il est en train déjà de venir. On a besoin, nous, d'être vigilants, priants, debout. Amen. De ne pas nous laisser assoupir, ni endormir, ni bercer d'illusions par l'adversaire. Vous voyez, tu es beau, tu es magnifique, heureusement que tu es là. Eh oui, non, non, pas ça. C'est mieux que le Seigneur, il dise, c'est bien, allez, je t'encourage. Allez, attends, arrête-toi là. Fais demi-tour, reviens, et là, tu prends à gauche. Maintenant, vas-y, je suis avec toi. Amen. Ça, c'est important. Que Dieu soit avec nous. Gloire à Dieu. Les frères vont venir pour les chants. Hein? On va prier. Voilà, gloire à Dieu. Puis on va essayer pour les offrandes aussi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cet enseignement que tu nous as destiné, Seigneur. Ce ne sont pas des choses nouvelles, c'est simplement un rappel, une exhortation. Seigneur, tout simplement à nous servir de ce que tu nous dis, Seigneur, de ce que tu nous enseignes, et de veiller sur notre vie. Merci de fortifier ton peuple, d'encourager, si peut-être quelqu'un est déjà, Seigneur, sur la pente descendante, de l'aider à se ressaisir, de le reprendre, Seigneur, puis de le fortifier, de l'encourager. Également pour ceux qui marchent fidèlement avec toi, je sais que déjà tu leur donnes des victoires et tu vas continuer à leur donner des victoires. Alors à toi la louange, notre Dieu. Amen.